Bonjour à tous, il est mardi 13h et c'est l'émission Ondes Positives qui commence à l'instant. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous. Au programme, des messages positifs bien sûr, des bonnes ondes et puis un invité qui raconte un peu de son parcours et de son expérience de vie. Et cette semaine, j'accueille Natacha Yashodhara. Bonjour Natacha.
Bonjour Dorothée.
Natacha, tu vis dans le Tarn-et-Garonne, tu as 45 ans, tu es thérapeute, plus précisément karma-thérapeute. Tu nous expliqueras en quoi ça consiste. Et tu viens avec un message positif très fort que tu portes en toi depuis ta plus tendre enfance. Et ce message est le suivant. Vivez pleinement votre vie présente. L'essentiel, c'est l'amour.
Exact.
Alors, tu m'as expliqué que ce message, tu le portes en toi depuis toujours. Est-ce que ça veut dire que déjà, petite fille à 4 ou 5 ans, tu avais conscience de l'importance et de la force de l'amour?
Oui. Toute petite, je savais que c'était vraiment essentiel et que c'était pour ça qu'on était là.
Mmh. Alors, tu m'as dit c'était une évidence.
Oui. Oui. Mmh. Jamais rien d'autre ne m'a porté à part ça.
Ouais.
Comprendre qu'il fallait faire des expériences, expérimenter l'amour, alors ça peut être de n'importe quelle manière évidemment, mais
ouais.
Expérimenter l'amour et que c'était ça qui était important, au-delà de la carrière, de l'argent, du pouvoir,
Voilà. Et tu me dis, c'est pour ça qu'on est là, alors ça veut dire qu'on est là où?
Qu'on est là, incarné, en
ouais.
ce moment, sur
ouais.
la Terre.
D'accord. Donc, alors quand on a préparé l'émission, j'ai eu, quand tu m'as expliqué tout ça, tout ton parcours, un peu l'impression de rentrer dans le scénario du film Le Cinquième Élément, avec la force de l'amour et puis quelque chose qui nous dépasse, ces histoires d'incarnation, ces expériences de vie à faire pour matérialiser l'énergie d'amour.
Tout à fait,
ouais.
C'est exactement ça. La difficulté, c'est qu'on confond l'amour avec le rapport sentimental humain.
Oui.
Pour moi, l'amour, c'est une énergie.
D'accord.
Et cette énergie peut prendre tout un tas de formes différentes.
Mm-hmm.
Et c'est bien ce qu'on vient faire comme expérience. Et c'est bien ça qu'il faut trouver. Et en fait, l'amour, c'est commencer par l'amour de soi.
Et ouais. Alors, on va avoir le temps d'en discuter tout au long de l'émission. Surtout, comment tu t'es aperçu que cet amour, c'était d'abord l'amour de soi. Tout à l'heure, je parlais d'un scénario de film. Il faut dire que tu es quand même une personne avec des facultés particulières. Et c'est pour ça que quand on t'écoute parler et quand on est à ton contact, on a l'impression d'être embarqué dans un scénario qui n'est pas le scénario de la vie concrète, matérielle, telle qu'on la connaît, telle qu'on la vit de façon conventionnelle. Hein. Tu es une personne avec des facultés. C'est ça?
Oui, on peut dire ça.
Mm-hmm.
Ouais.
Alors,
je l'entends pas vraiment comme ça parce que pour moi c'est normal en fait.
Ouais.
Donc j'ai l'impression que et je pense que ça c'est pas réellement des facultés, c'est que tout le monde y a accès
mm-hmm.
en final. C'est notre mental souvent qui bloque.
Alors à quoi tu as accès?
Je sais pas. La vérité, je ne sais pas. J'ai accès à j'ai l'impression d'autres temps, d'autres lieux, d'autres dimensions.
Oui.
Oui, c'est ça. D'autres sphères.
Tu es en contact avec une forme de connaissance.
Oui.
Que on va dire le commun des mortels n'a pas appris à avoir.
C'est ça.
Hein, c'est ça. Alors du coup, tu entends des voix, tu vois des trucs.
Oui.
Ouais. Tu peux nous expliquer ce que tu vois.
On va croire que je suis schizophrène. Hein.
Donc tu vois des entités. Tu m'as dit
oui.
ça comme ça. Tu vois
alors,
des entités.
Oui.
Qu'est-ce
alors,
que
bah,
ça veut dire voir
petite,
des entités
Ça c'est voir des entités, c'est voir de manière très différente. Il n'y a pas de règle en fait.
Mm-hmm.
Ça peut être voir comme je te vois.
Mm-hmm.
Ça peut être voir comme quelque chose un peu de l'ordre du brouillard, d'une forme un peu nuageuse, un peu vaporeuse. Ou ça peut être voir juste de l'énergie.
Mm-hmm. D'accord.
C'est ça. En fait, je pense qu'on a tous un taux vibratoire. En fait, on a tous une énergie bien propre.
Mm-hmm.
Et par rapport à ce qu'on est venu faire dans cette incarnation-ci,
mm-hmm.
Ça peut, on a accès à d'autres états vibratoires
mm-hmm.
ou pas.
D'accord.
Ou pas. Parce qu'il est possible aussi d'être venu dans cette incarnation juste expérimenter la matière, justement.
Alors, ce que tu veux dire, c'est qu'un corps matérialisé, un corps tel qu'on le connaît, avec de la chair, du sang, etc., ça correspond à un taux de vibration,
oui,
qui fait que c'est palpable, c'est physique, c'est de la matière,
oui,
mais qu'il existe d'autres états vibratoires qui feraient que nous avons aussi des corps plus éthériques, plus subtils, déjà tous autant qu'on est,
oui,
mais qu'il existe aussi d'autres êtres, d'autres entités qui n'ont qu'un corps vibratoire et pas le corps physique.
Tout à fait.
D'accord.
C'est tout à fait ça.
Et toi, tu arrives à percevoir ces corps vibratoires?
Certains, oui.
On pourrait dire, si on veut vraiment résumer et faire du facile, que tu vois des spectres et des fantômes.
On peut dire ça.
On peut dire ça.
Mais pas que, ça peut être aussi des guides, de ce qu'on appelle des guides de lumière, ça peut être des anges. Bien que, là c'est pareil, je suis quand même assez convaincue que... Suivant l'endroit dans le monde dans lequel on se trouve, pour une même énergie ou un même spectre, si on peut appeler ça comme ça, nos images mentales vont être différentes. C'est-à-dire qu'ici, on voit des anges, mais à mon avis, si on va en Afrique ou dans les pays du Maghreb, ils vont voir d'autres trucs.
D'accord.
Mais l'énergie est la même.
En fonction de la culture, oui, des images symboliques, de l'inconscient collectif, de tout ce qui est véhiculé par une famille, une culture, etc.
Tout à fait, c'est exactement ça. Parce que on est incarné et qu'on a un mental qui est fort et que malgré tout, même quand on a accès à ce genre de choses, notre mental a besoin de comprendre et de savoir à quoi, enfin avec quoi on est connecté à ce moment-là.
Ouais, ouais. Et peut infléchir du coup la perception que l'on a des choses aussi.
Bien sûr.
Ou donner une forme un peu différente.
Tout à fait. Mais c'est la même énergie en fait qui est en action.
D'accord. Tu nous as dit que tu vois donc, tu entends ces voix et tu vois ces entités depuis toute petite.
Oui.
Comment s'est passée ton enfance? Comment réagissaient tes parents, ton entourage?
Bah, j'ai très vite compris qu'en fait, là pour le coup, c'était mieux de pas en parler parce que je passais tout le temps pour l'extraterrestre.
Ouais.
Et que alors j'ai pas tellement de souvenirs en fait de quand j'étais vraiment petite. Les seuls que j'ai, c'est notamment des amis de mes parents une fois qui avaient dit mais cette gosse, elle a la faculté de d'aller puiser dans le vraiment dans l'émotion et d'aller taper juste. Donc ça se matérialisait plutôt comme ça.
D'accord.
En fait, j'étais pas là en train de dire ah bah tiens, si à mes parents évidemment, je leur disais ah bah tiens des trucs à la con hein, genre pour se garer. Ah bah tiens les anges ils disent qu'il faut t'aille par là pour te garer. Et bon, les trois quarts du temps quand même ça fonctionnait, mais après moi je suis issue d'une famille athée et pas du tout ouvert à tout ça. Donc en fait, j'ai plutôt appris à la fermer.
D'accord.
Et à mettre ça de côté, même si ça m'empêchait pas de voir, mais j'en parlais pas trop.
D'accord. Et c'était les anges dont tu parles qui t'ont donné le message que l'essentiel c'est l'amour et que
Non, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi. Enfin, c'est vraiment, je pourrais plutôt parler d'une mémoire, tu vois, comme si j'étais arrivée avec dans mon disque dur.
Déjà ce message imprimé.
Oui.
D'accord. Alors avec ce message, on peut dire que t'es parti à fond, bien décidé à démontrer que l'amour était la force suprême. Hein. Et pour toi, l'amour, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était au départ de ta vie, surtout l'amour amoureux, l'amour qu'on peut avoir pour un homme, l'amour à deux au sein d'un couple. On peut dire à l'époque que c'était une vision un peu étroite et tronquée de l'amour, mais tu n'en avais pas conscience.
Non.
Donc si bien que à 15 ans, tu te retrouves déjà enrôlé dans une histoire d'amour.
Tout à fait.
Oui.
À que des longues.
Oui.
Toujours que des longues parce que voilà, quelque chose de plus fort que moi en fait. Et vraiment cette impression que c'était ça qu'il fallait creuser quoi.
Oui.
Mais dans le coup, ce qui provoque aussi beaucoup d'erreurs, c'est vraiment l'apprentissage par l'expérience.
Donc de longues histoires d'amour où tu donnes tout,
oui,
et où tu deviens un peu dépendante en fait.
Totalement.
Ouais. Totalement dépendante.
Totalement. totalement. C'est-à-dire que rien d'autre n'avait d'importance. Et c'est bien là l'erreur dans ce message-là, quand on le prend brut de décoffrage, c'est qu'il faut bien commencer par l'amour de soi, parce que quand on est dans la dépendance affective, évidemment qu'on n'est pas dans l'amour de soi. C'est une manière d'expérimenter l'amour, mais qui n'est pas juste.
D'accord. Alors, on va dérouler chronologiquement ce qui s'est passé. Tu vas rapidement, au bout de d'une quinzaine d'années, déchanter en constatant que ta perception de l'amour à l'époque n'est pas facile à vivre. Que ben à 30 ans, tu divorces du père de tes deux enfants. Tu es en pleine détresse.
Oui.
Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'impression d'être dans l'échec, de ne pas avoir pu démontrer le grand message de ta vie?
C'est ça. C'était plutôt un truc du genre, mais alors on m'aurait menti.
Ouais.
Comment ça se fait que l'amour ne guérit pas tout? Comment ça se fait que la personne que j'avais choisie ne comprenait pas à quel point l'amour était important et à quel point en fait ça devait passer au-delà de tout. Enfin, oui. Au-delà de tous les écueils possibles. Mmh. Voilà.
Et les entités avec lesquelles tu étais connectée ne te disaient pas « Attention, là, t'es en train de te tromper, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça... Le message n'est pas là. »
Pas du tout, parce que à ce moment-là, en fait, voilà, l'autre difficulté, c'est celle-là. C'est que quand on est dans un amour exclusif, tout ça, on le capte plus. On le capte pas. En fait, j'avais à ce moment-là totalement coupé. Et puis, c'est pareil, la détresse, de toute façon, fait que ta vibration s'abaisse à un point que, de toute façon, tu captes plus rien. Là, on a notre libre arbitre. Et
d'accord.
C'est ça, notre libre arbitre. C'est comment on voit les choses, comment on réagit aux choses ou pas, et comment on vit avec ça. Quand t'es dans la détresse et que t'es au fond du seau, comme on dit...
Ouais.
Tu captes plus rien, c'est certain.
D'accord. Alors, on va faire une première pause. Tu nous as emmené des chansons de Thomas Sidibé. Tu nous en diras quelques mots après. Alors, comment faut-il faire pour vivre le miracle de l'amour, hein? C'est le message. C'est une question que tu t'es posée à cette époque de ta vie quand tu es arrivé à l'âge de 30 ans. On écoute justement la chanson Comment faut-il faire, hein? C'est le titre de Thomas.
On ne peut rien changer, on préfère tous en rire, on sent qu'il y a danger. On entend toujours dire, c'est la fatalité. Et on commente le pire, comme ça c'est toujours fait. Comment faut-il faire
pour savoir dans quelle terre nos légumes ont poussé?
Comment faut-il faire
pour parler aux petits dans la cage d'escalier?
Comment faut-il faire
pour changer la musique dans les supermarchés?
Comment faut-il faire
pour maîtriser la langue de l'oiseau coloré?
Comment faut-il faire
pour qu'à la fête d'école on passe Fela ou Marley?
Comment faut-il faire
pour ne pas gagner plus, ne pas plus travailler?
Comment faut-il faire
pour effacer la dette des pays étranglés?
Comment faut-il faire
pour ne pas renoncer, ne pas s'oublier?
Passe le temps à dire qu'on ne peut rien changer. On préfère tous en rire, on sent qu'il y a danger. On entend toujours dire, c'est la fatalité. Et on commente le pire, comme ça c'est toujours fait. Comment faut-il faire
pour sourire dans la rue sans paraître suspect?
Comment faut-il faire
pour que les gens des villes voient le ciel étoilé?
Comment faut-il faire
pour comprendre les pleurs du tout petit bébé?
Comment faut-il faire
pour le retour joyeux de tous les réfugiés? Pour dire à son voisin, venez à ma soirée déguisée.
Comment faut-il faire
pour traduire le poème dans toute sa liberté?
Comment faut-il faire
pour voir ton beau sourire en pleine obscurité?
Comment faut-il faire
pour ne pas renoncer, ne pas s'oublier?
Comment faut-il faire ? C'est une chanson de Thomas Sidibé, choisie par Natacha Yachaud-Dara dans Onde Positive cette semaine. Alors Natacha, qu'est-ce qu'elle t'évoque cette chanson ?
Oh ben en fait c'est plutôt Thomas qui m'évoque quelque chose. Ouais. Alors comment faut-il faire ? Évidemment ça c'est la bonne question à se poser. Mm-hmm. Hein, comment on peut faire ? Parce que le pourquoi on s'en fiche un peu.
Ouais.
L'intérêt c'est le comment.
Mm-hmm.
Et Thomas c'est vraiment quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas si longtemps que ça en fait, parce que c'était un très très bon ami à mon frère et que mon frère est parti rejoindre d'autres sphères au mois de novembre dernier. Et donc j'ai pu faire sa connaissance à ce moment-là. Et que c'est vraiment ce que j'appelle une belle âme et qui fait des choses vraiment très positives et fantastiques. Au-delà de sa musique, c'est une personne qui va aussi dans les hôpitaux voir les enfants malades, les accompagner parfois jusqu'à la fin par sa musique, par des contes, par voilà. C'est vraiment quelqu'un cher à mon cœur maintenant.
D'accord, que tu avais envie de mettre à l'honneur.
Tout à fait.
Alors pour reprendre le titre de la chanson, comment faut-il faire ? Comment tu as fait toi, Natacha, à 30 ans, en pleine détresse amoureuse, voyant que le message que tu portes en toi, bah, finalement, tu n'arrives pas à le matérialiser dans ta vie physique et concrète. Comment tu as fait ?
Alors comment j'ai fait ? Au départ, j'ai vraiment essayé de le matérialiser en allant travailler sur moi, parce que je me suis posé une question assez forte à ce moment-là, c'est est-ce que je suis saine d'esprit ? Comment c'est possible d'aller aussi loin déjà à ce moment-là et d'être à ce point-là aveugle en fait ? Et pourquoi il y avait cette espèce de fossé abyssal entre ce que je sentais en moi et ce que je vivais ? En fait, qui n'était absolument pas en accord.
Tu as eu peur d'être folle, quoi.
C'est ça,
folle,
complètement.
Folle, illuminée, branchée.
Oui, folle alliée, oui, vraiment. Donc j'ai commencé à faire des thérapies sur moi, en fait, pour comprendre si j'étais folle ou pas. Donc j'avais choisi à ce moment-là les thérapies de groupe, et ça, j'ai trouvé que ça amenait. Un plus dans le sens où l'énergie du groupe fait que les carapaces pètent, même si nos croyances, notre mental essaye de retenir certaines choses et qu'on s'accroche quand même encore à une espèce de sorte de personnalité. Ah mais non, mais moi je suis comme ça. Enfin voilà, j'avais beaucoup de mal à comprendre la notion d'amour de soi parce que moi j'entendais égoïsme. Et voilà. Donc en fait la thérapie de groupe m'a permis en tout cas à moi à ce moment-là d'aller certainement plus vite et plus loin.
D'accord. Donc tu as réalisé pendant ce travail sur toi qu'en fait tu pensais te connaître et tu ne te connaissais pas dans le fond. C'est
tout
ça
à fait. Et surtout j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des comportements à l'insu de notre plein gré. Dû à des croyances ou à la façon dont on a été élevé, ou enfin voilà, qu'il y avait des choses en fait où on pensait gérer, mais en final on est en mode automatique.
D'accord.
Et qu'on fait de manière habituelle quoi en fait, ou des choses qu'on croit vraies pour soi ou pour d'autres, mais qui sont pas si vraies que ça. J'ai commencé à comprendre à m'intéresser à comprendre en fait au comportement humain concret.
D'accord. Et à te nettoyer de certaines croyances, j'imagine, et certaines programmations.
Ah, ça, c'est certain.
Qui ne te correspondaient pas.
Tout à fait. Et là, ça a pété fort.
Ouais.
Vraiment fort. Donc, une impression de renaissance, vraiment.
Ouais.
Genre, ah, mais oui, c'est pour ça que je fais ça. Ah, mais oui, c'est pour ça que je réagis comme ça. Ah, mais oui. Enfin, des ah, mais oui, il y en a eu plein, et très rapide, là.
Ce début de cheminement a duré combien de temps, à peu près ?
Ouf. Alors là, à partir du moment où j'ai commencé ça, je crois que j'ai au moins 10 ans. Au moins 10 ans, j'ai continué à travailler sur moi, oui.
Oui.
Après, je suis partie dans une espèce de boulimie de compréhension. Là, c'était mon mental qui avait besoin vraiment de comprendre.
D'accord. Et du coup, avec ce mental qui a besoin de comprendre et de savoir des choses, tu m'as dit pendant un moment, j'allais mieux, donc j'étais plus dans la détresse, et j'ai eu le syndrome de sauveuse de l'humanité.
Ah oui. Ah ben oui, je voulais que tout le monde comprenne. Pour moi, c'était tellement, magique et magnifique de me dire mais en fait je peux reprendre le pouvoir sur ma vie, en fait je peux reprendre le contrôle de qui je suis et puis me laisser mener par des choses par des choses que je contrôlais pas, au final. Ou des croyances, en fait. Quand les croyances pètent, en fait, il y a un sentiment de liberté derrière. Ouais. Et j'avais envie de le dire à tout le monde. Je me serais mis au milieu de la place Prax Paris et je l'aurais crié partout. Et donc, dans le coup, avec ma famille, mes proches, mes enfants, enfin bref, je distribuais la bonne parole à qui mieux mieux.
D'accord. Et puis, pas que avec tes parents, tes enfants, aussi avec ton ex-mari. Tu avais divorcé de ton ex-mari et du coup toute nouvelle et toute fraîche après ce travail thérapeutique, pensant que tu avais tout compris à ce moment-là, tu t'es dit ben je vais retourner avec mon mari et cette fois-ci ça va fonctionner et cette fois-ci je vais montrer que oui l'amour est plus fort que tout.
Tout à fait.
Ouais.
Ça a été possible au bout d'un an parce que le sentiment d'amour était toujours là des deux côtés évidemment.
D'accord.
Donc voilà. Sur des nouvelles bases et avec toutes ces fortes de toutes ces nouvelles compréhensions et un positionnement très différent.
Oui.
En fait, c'était le même homme, mais il y a vraiment eu deux. En fait, il y a eu deux vies quand même très différentes malgré tout.
Oui, toi, tu avais bougé, tu t'étais transformé de l'intérieur, donc tu ne réagissais plus de la même façon.
Tout à fait.
Donc lui non plus ne réagissait pas, se repositionnait inconsciemment par rapport à ton comportement. Donc vous avez eu deux histoires qui ne se ressemblaient pas.
Tout à fait. Deux fois 10 ans.
Deux fois 10 ans. Et alors, qu'est-ce que ça a donné?
Ça a donné qu'au bout de la deuxième tranche de 10 ans, rebelote, repatatras. Donc là, pendant ces 10 années, cette deuxième tranche de 10 ans, je continuais à travailler sur moi, je continuais à faire des... Donc là, j'ai même entamé un processus de formation pour moi-même devenir thérapeute. Donc j'ai fait plusieurs techniques différentes. Donc j'ai continué à travailler sur moi de plusieurs manières différentes.
Oui.
Mais bon, après, voilà. Un positionnement différent amène un comportement différent. Mais si l'autre personne ne travaille pas non plus sur elle, si tu veux, à un moment, le fossé se recreuse.
Oui.
Différemment, mais ils se recreusent, forcément.
Oui, pour qu'un couple fonctionne, il faut que les deux personnes aient envie que ça fonctionne et travaillent sur elles pour être à peu près toujours sur la même longueur d'onde.
Tout à fait.
Sinon, une personne ne peut pas tout faire et ne peut pas aider l'autre si l'autre n'est pas d'accord de recevoir de l'aide, déjà.
Tout à fait. Puis genre là, pour le coup, maintenant, avec le recul, je pense que c'est une hérésie d'être le thérapeute dans son couple.
Oui.
Ça peut difficilement fonctionner, je pense. Il y en a peut-être qui sont arrivés, pas moi.
Donc, cette deuxième tranche de vie en couple avec le même homme se termine, tu m'as dit, je reprends tes mots, par un grand coup de pied dans le cul.
Ah oui. Ah oui, là, ça a été... la deuxième fois, ça a été terrible. Terrible, terrible. Parce que bah là, dans le coup, la première fois, tu te dis, bon, ok, ce que je sens, c'est pas juste. La deuxième fois, tu travailles sur toi, tu fais péter... Enfin, moi, j'ai fait péter plein de trucs, j'ai vraiment essayé de me positionner différemment et rebelote, ça ne refonctionne pas.
Oui.
Et c'est très violent. La deuxième séparation a été à nouveau très violente, pour moi, j'entends. Pour moi.
Oui.
Et donc là, par contre, là, c'est au secours. Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais?
Donc la détresse est encore plus grande.
Oui.
Tu m'as dit, j'ai vécu ma nuit noire de l'âme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une nuit noire de l'âme dans ta bouche?
Alors pour moi, c'est vraiment se retrouver à terre, mais totalement à terre. Là, l'ego vole en éclats, la personnalité vole en éclats. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et vraiment l'impression de vraiment plus savoir ce qu'on fait là. Pourquoi je suis là? Je comprends plus, en fait. Donc j'ai vécu 2 ans comme une ermite avec en seul et unique contact mes enfants qui étaient les seules choses qui me rattachaient en fait
à la vie à cette vie là
à une certaine envie de vivre en fait je crois que j'avais plus envie de vivre du tout parce que là plus de compréhension plus de
donc tu as fait l'expérience du dépouillement extrême
oui. Ah oui, 2 ans, c'est long.
Oui.
C'est ça, c'est là, on laisse tout tomber et on revient vraiment à l'essentiel, je crois.
Oui. C'est comme, en fait, c'est un passage, c'était le passage obligatoire pour que tu te retrouves.
Oui. Oui, parce que dans le coup, je ne savais, alors, je savais qui j'étais par rapport à tout ce que j'avais fait comme travail sur moi, mm-hmm. mais le qui j'étais n'avait plus de place. Mm-hmm. En fait, je savais vraiment plus dans quelle direction il fallait que j'aille, j'avais plus de place et j'avais vraiment, l'obligation de retrouver ma place et qu'est-ce que j'avais envie de faire et qui j'avais envie de voir.
Et ce fameux amour de toi aussi. C'est à ce moment-là que tu as compris que l'amour est l'essentiel, mais que c'est d'abord l'amour de soi. On en parlait tout à l'heure en début d'émission. Donc, en fait, en gros, depuis le début, tu t'y étais prise comme un manche.
C'est ça.
C'est pas moi qui le dis.
À l'envers.
Je le dis parce que tu me l'as dit quand on a préparé l'émission. Oui, je ne pose pas de jugement.
Mais c'est exactement ça. Je m'y suis vraiment pris comme un manche. Ouais. Mais en même temps, je suis bienveillante quand même avec ça parce que c'était, je pense, un passage et un parcours obligatoire pour en arriver à ces compréhensions-là, parce que ces deux ans-là m'ont aussi permis de revenir dans des connexions plus... Mm-hmm. Là, j'ai commencé vraiment à pouvoir avoir des messages importants.
Parce que comme tu nous le disais tout à l'heure, quand on n'est pas proche de soi, quand on s'éloigne, quand on vit pour les autres, quand on est dans le rêve des autres, quand on essaye de se faire aimer, on s'éloigne de, on n'est plus le canal qui reçoit. On s'éloigne des perceptions.
Tout à fait. C'est parce que là, on est mu par la peur et pas par l'amour. Mm-hmm. La peur d'être seule, la peur de pas plaire, la peur de, le besoin d'approbation qui est quand même une peur derrière, enfin voilà. Ouais. Et on n'est pas du tout dans l'amour. L'amour, c'est l'inverse de la peur.
Alors, je reprends tes paroles. Tu m'as dit « L'amour qui est plus fort que tout, ce n'est pas celui qu'on croit avoir besoin de recevoir des autres. C'est l'amour inconditionnel de soi qui vient de l'intérieur. C'est celui-là qui fait des miracles. »
Tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait, parce que c'est de cette manière-là qu'on peut le partager après. Si on n'est pas capable d'être un canal d'amour pour soi-même, on ne peut pas diffuser d'amour, en fait. Mm-hmm. Et en fait, souvent, l'amalgame, il est là. C'est qu'il y a des gens qui sont dans le don, qui pensent être dans le don d'amour tout le temps, mais qui s'oublient totalement, ce que j'ai été pendant plus de 30 ans, donc... Ouais. Mais en fait, là, à ce moment-là, on n'est pas du tout dans l'amour.
Donc l'altruisme, c'est bien, mais faut pas s'oublier.
Tout à fait. Mm-hmm. Ah oui.
Faut rester dans l'équilibre.
Oui.
Alors tout à l'heure, tu nous disais, c'est compliqué de dire, il faut d'abord s'aimer soi-même parce que la société nous juge comme égoïste et soi-même, on se culpabilise un peu d'être égoïste. Comment t'as géré ça?
J'ai géré ça parce que en ayant distribué autant d'amour, je me suis retrouvée vraiment seule et incapable du moindre lien avec qui que ce soit, donc à part avec mes enfants et ma mère évidemment, voilà, mais incapable de nouer la moindre relation pendant 2 ans. Comme je te disais, c'est long, 2 ans.
Ouais. Donc c'est vraiment par l'expérience que tu as compris que c'était pas le bon chemin.
Tout à fait.
Ouais. Mmh.
Tout à fait. Et puis à force aussi, je te dis, à ce moment-là, j'ai commencé à reconnecter. Oui. Donc là, j'ai commencé à avoir des messages un peu plus forts et un peu qui avaient du sens. Mm-hmm. Notamment une fois où j'étais vraiment, vraiment ce qu'on appelle au fond du seau et où je parlais avec mes amis là-haut. Ouais. Et je leur disais, mais enfin, pourquoi vous me maintenez ici? C'est tellement compliqué. Il y a tellement pas d'amour, en fait. Ouais. Et là, la réponse a été. Et je leur disais, j'aimerais, enfin, limite, j'ai hâte de vous rejoindre et de vivre dans cette énergie d'amour. Mm-hmm. Et là, on m'a répondu, non. T'as une chance folle d'être incarné en ce moment.
Oui.
Et la Terre est le seul endroit où on peut en fait faire descendre cette énergie d'amour dans le matériel. Mm-hmm. Mais l'amour au sens large. Pas l'amour exclusif pour une seule personne ou pour un seul groupe de personnes ou enfin voilà, c'est vraiment reçois l'amour en toi et distribue large.
Oui. Donc t'es en train de nous dire en fait que notre boulot sur la Terre, c'est de matérialiser l'énergie d'amour.
Tout à fait.
C'est vaste.
Oui. Exact. C'est très vaste, mais c'est en même temps très, alors, très facile, en fait, une fois qu'on l'a connecté en soi. Très facile. Et l'amour ne veut pas dire non plus une gentillesse excessive. C'est-à-dire que, par amour, tu peux effectivement rompre des relations qui ne sont pas justes ou pas bonnes, mais de manière équilibrée et juste, pas dans le jugement, pas dans le je sais mieux que toi, là c'est pas bon, faut que tu t'en ailles. Non, quand tu es dans l'amour, tu sens rapidement ce qui est juste ou pas.
Oui.
En fait, ça n'évite pas l'erreur, en fait. Ça fait partie de l'expérience, hein, se tromper.
Donc l'amour, c'est l'accueil, quoi. C'est accueillir ce qui se passe. C'est la bienveillance.
Oui, mais accueillir ce qui se passe en soi.
D'accord. On va rester pour l'instant sur ce début d'explication. On continue à en parler juste après ton deuxième choix musical. C'est toujours Thomas Sidibé qui chante Eva.
Shab-shab-a-ra-pam, 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 shab-a-ra-pa-ra-pa-pam, shab-shab-a-ra-pam, 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 shab-a-ra-pa-ra-pa-pam. C'est surtout près des sages, sur un nuage de lait, t'enverras des messages à tes poteaux restés. Sur les chemins terrestres, on entendra ton rire, et tu nous diras nos stress ici, j'ai le sourire. Car je chante avec Marley, je tchatche avec Cheganta Diop, je danse avec les anges, je souris à Gandhi. Je suis Irie, yeah, don't worry, la vie belle la vie. Irie, yeah, don't worry. Shab-shab-a-ra-pam, shab-shab-a-ra-pam, shab-a-ra-pa-ra-pa-pam, shab-shab-a-ra-pam, 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 shab-a-ra-pa-ra-pa-pam. Tu as donné des ailes à beaucoup de destins, tes frères et sœurs touchés par ta voix, par tes mains. Le mot humain, tu as su lui donner tout son sens. Et aujourd'hui, tu baignes dans la vérité immense. Hey. Tu chantes avec Marley, tu tchatches avec Cheganta Diop, tu danses avec les anges, tu souris à Gandhi. T'es Ari, yeah, don't worry, la vie belle la vie. Ari, yeah, don't worry.
Eva, Thomas Sidibé, chanson choisie par Natacha Yashodhara dans l'émission Onde Positive cette semaine. Alors, dans cette chanson, Thomas dit plusieurs fois « I have a message ». Donc, j'ai bien aimé parce que toi, Natacha, tu as des messages pour les gens. Hein?
Oui.
on était en train de parler juste avant cette pause musicale du fait que tu avais vécu ta nuit noire, que bon, de l'âme, que tu avais nettoyé beaucoup de choses, et puis au bout de 2 ans, tu t'es sentie prête pour évoluer dans ta vie, notamment professionnelle, et mettre à profit toutes les formations que tu avais faites.
Oui.
Depuis des années, et tu as décidé de t'installer en tant que thérapeute.
Tout à fait.
Mais dans ton idée, tu voulais être une thérapeute normale.
C'est ça.
C'est comme ça que tu me l'as expliqué. Ça veut dire quoi, une thérapeute normale?
Bah, concrète, en fait, puisque dans la première partie de ma détresse, en fait, c'est quand même ce qui m'avait amené à pouvoir vivre de manière... oui. plus agréable et plus légère. Donc j'avais l'intention d'être thérapeute concrète. Et puis, voilà, j'assumais pas encore tout à fait, je pense, le fait d'être connectée.
Mmh, d'accord. Et là, donc lors de tes premières consultations en thérapie normale, les karmas s'ouvrent.
Oui. Oui, oui.
Alors, j'aimerais que tu nous expliques comment ça se passe quand un karma s'ouvre. Et du coup, je rebondis sur I have a message. Qu'est-ce que ça veut dire, un karma qui s'ouvre et les messages que tu vas en extraire et donner aux personnes qui viennent travailler avec toi?
Ben, là, les premières fois, ça a été vraiment du free total, hein, parce que moi-même, je me suis retrouvée surprise. C'est-à-dire qu'après que la personne m'ait expliqué sa difficulté répétitive ou du moment où voilà, et forte de mes thérapies normales, je commence à discuter. Et là, je me suis retrouvée projetée dans d'autres temps, d'autres lieux, parfois avec un sexe différent, mais avec la sensation que c'était bien de la même personne que j'avais en face de moi, assise dans mon canapé, et en même temps... dans une vision plus énergétique, on va dire.
Alors, ça veut dire que concrètement, tu as une personne qui vient travailler avec toi, qui est en consultation, elle est en train de te parler, et tout d'un coup, tu la vois elle, bien évidemment, t'es toujours là dans la pièce, mais aussi, tu as une double vision qui est cette même personne dans un autre temps, dans un autre espace.
Tout à fait.
Ouais.
Et en général, en train de mourir.
D'accord.
Un karma qui s'ouvre commence toujours par... En fait, c'est l'inverse... de ce qu'on est en train de vivre là, c'est-à-dire qu'on commence par la fin et on remonte.
Oui.
Donc évidemment, c'est toujours des événements totalement différents, des vies totalement différentes, évidemment. Mais en creusant avec la personne, on se rend compte que c'est les mêmes leviers qui bloquent.
D'accord.
En fait.
Oui.
Et puis que parfois on part sur un sujet bien précis, souvent même on part sur un sujet bien précis, mais dans un karma on va pouvoir nettoyer ce sujet-là plus d'autres qui viennent se rajouter, parce que en fait ça se passe de cette manière-là, c'est-à-dire que moi je dis à la personne tout ce que je vois, et ça a été très compliqué au départ parce que là pareil, hein, je me suis dit on va me prendre pour une folle furieuse.
Oui.
D'ailleurs tu parlais de cinéma tout à l'heure, au tout début où je faisais ça, je me suis vraiment posé la question à savoir est-ce que je suis dans un karma là, dans quelque chose qui a déjà eu lieu, ou bien est-ce que c'est mon cerveau qui est hyper productif et que je ferais pas mieux d'écrire des scénarios de films pour le coup.
Ouais.
Parce que bon.
Donc la première fois que ça t'est arrivé, le karma de la personne que tu avais en face de toi s'ouvre et tu en fais quoi? Tu te dis que tu vas lui raconter ce que tu vois.
Oui oui oui. Ouais. Parce que ça par contre je savais que si j'avais quelque chose de cet ordre-là qui s'ouvrait, c'était pas pour moi. Et effectivement, pour moi, ça ne faisait aucun sens. En revanche, pour la personne, oui.
D'accord. Donc, tu expliques, je suis en train de vous voir, on est au Moyen-Âge, et vous êtes sur le bûcher. Voilà. Vous êtes en train de brûler.
C'est ça, mais ça peut tout à fait être ça.
Et ça parle à la personne. Ça lui évoque quelque chose de sa vie d'aujourd'hui.
Tout à fait. Tout à fait. Et puis après, bah, comme je te dis, en fait, je remonte.
Enfin, ouais.
Possibilité de remonter dans cette vie karmique en fait et se rendre compte que oui, en fait les difficultés rencontrées dans l'autre vie se reposent dans celle-là.
D'accord. En fait. Alors, je suis en train de m'apercevoir qu'on n'a pas donné la définition de ce qu'est un karma. Tout le monde ne sait pas ce qu'est un karma.
Alors, un karma c'est tout un tas de vies, en fait, qu'on a pu avoir sur cette planète, donc de naissance, vie, mort, et pour chacun, en fait, très différent, c'est-à-dire qu'on peut avoir décidé d'être venu s'incarner plein de fois, ou au contraire, très peu, parce qu'on a fait en même temps d'autres expériences dans d'autres sphères. donc voilà, un karma, c'est une répétition d'expériences.
D'accord.
Terrestre.
C'est une, on pourrait dire une ligne de vie composée de plusieurs vies incarnées.
Tout à fait.
C'est ça?
Ouais.
Une vie incarnée, c'est lorsque l'on naît dans un corps physique.
Oui.
Lorsqu'un bébé naît, il y a une âme à l'intérieur et jusqu'à la mort, on va dire que c'est une incarnation. Après la mort, dans ta vision du monde, l'âme s'échappe du corps et repart dans un autre corps pour vivre une autre expérience.
Oui, enfin entre les deux, elle repart aussi, elle reste dans sa forme énergétique, éthérique. Enfin,
oui.
Elle reste un laps de temps qui, enfin, qu'elle-même choisit en fait, sachant que pour moi, de l'autre côté, la notion de temps n'existe pas. Mm-hmm. Le temps linéaire, comme on le connaît sur la Terre, n'est valable que sur la Terre. Et donc, pour des raisons qui lui sont propres, en fait, elle va choisir de se réincarner rapidement ou pas.
D'accord. Et cette âme choisit de s'incarner en fonction de l'expérience qu'elle a besoin de faire pour matérialiser l'énergie d'amour, si j'ai bien tout compris.
C'est ça.
Alors, ça veut dire que quand on vit une vie de galère, une vie qu'on n'aime pas, pleine de malheurs, des handicaps, des maladies et tout ça, ça veut dire que notre âme a choisi cette existence-là.
Tout à fait. Exactement. On est, dans ma vision des choses, on est pleinement responsable de tout ce qui nous arrive par rapport à l'expérience qu'on a choisi effectivement de venir faire.
On a un message à trouver là-dedans. Dans tous ces malheurs, on a un message à trouver.
Exactement.
On a une expérience à faire.
Oui. Et j'ai envie de te dire, le message est universel pour tout le monde. Ce qu'on a à retrouver, c'est l'amour.
Oui.
L'amour en soi, l'amour de soi et l'amour à partager malgré toutes les embûches qu'on peut rencontrer dans cette vie.
D'accord. Donc ta vision des choses, en fait, elle aide beaucoup à dédramatiser.
Bah oui.
Parce qu'on se dit, bon, bah si on a une vie de galère, on va essayer d'en tirer le meilleur, de concrétiser, matérialiser l'amour comme on peut. Et puis, ma foi, si on n'y arrive pas, on va avoir plein d'autres expériences après.
Ah bah ça, c'est certain.
Ouais.
Il n'y a pas de... Là, pour le coup, c'est... Enfin, là, j'en suis moins persuadée, c'est sûr. C'est-à-dire que il n'y a pas d'échec, en fait. Il n'y a pas d'erreur. Il y a un parcours. Il y a un chemin. Et à nous de le trouver, oui, de manière... La manière d'arriver à entendre le sens des choses qui nous arrivent, en fait. D'aller plus loin que le truc bêtement concret. Bah, j'ai pas de chance parce que je sais pas, moi, j'ai eu une enfance difficile ou je suis pas née au bon endroit au bon moment. Enfin voilà, tout ça c'est non, on est dans ma vision des choses, tout est toujours parfait et vraiment au bon moment.
Et surtout, on ne peut pas se poser en victime.
Ah non, c'est impossible.
C'est impossible puisque en fait, on l'a choisi.
Tout à fait.
Donc on peut pas dire j'ai pas de chance, c'est pas de ma faute.
Non. On peut pas.
D'accord. Parfois, on entend j'ai un mauvais karma, j'y peux rien, c'est mon karma, c'est comme ça. Ce sont donc de grosses bêtises.
Pour moi, oui, parce que on a un karma, mais on a aussi un dharma.
Ah. Et
donc,
le dharma.
Le dharma, c'est en fait toutes nos expériences déjà faites aussi, mais positives. Donc, on n'arrive pas sur la terre avec juste du karma ou juste du dharma. C'est une hérésie.
Oui.
En fait, on a une somme d'énergie positive et négative plus ou moins équilibrée. Et notre boulot dans notre vie là, c'est de justement revenir à l'équilibre. C'est-à-dire que c'est un peu aussi la philosophie bouddhiste dans le sens avec le yin et le yang. En fait, rien n'est jamais tout noir et rien n'est jamais tout blanc. Et que le chemin le meilleur, c'est la voie de l'équilibre. Justement.
D'accord.
Arriver à trouver l'équilibre. C'est-à-dire qu'effectivement, une vie pour des gens un peu compliquée ou qu'ils jugent compliquée, on pourrait penser que ils ont un karma plus important, par exemple, qu'un dharma. Je pense ça au moment où on en est de l'évolution à l'échelle humaine, je pense qu'on est à peu près tous dans la possibilité d'être à l'équilibre.
D'accord.
En fait, je parle pour ici, évidemment. Mais quand on voit, par exemple, que dans certains pays qui sont moins favorisés que nous et que certaines personnes arrivent à avoir un esprit beaucoup plus positif et une joie de vivre que ici on n'arrive pas à avoir alors que tout est quand même permis pour, c'est qu'ils sont forcément connectés aussi à leur dharma. Enfin, tu vois, il y a une espèce de notion d'essentiel, une vision un peu plus haute justement des choses et de la vie qui font que ça permet d'être dans la joie.
D'accord, donc ça veut dire qu'ici, dans notre vieille Europe, on est un petit peu trop connecté à notre karma et pas assez à notre dharma.
Oui, parce qu'on s'est éloigné justement de cette vision plus haute de la vie et de qui on est et de ce qu'on a à y faire. On s'est éloigné de tout ce qui est... Alors, je suis pas forcément fan des religions ou choses comme ça, mais, il me semble important d'être quand même... d'avoir une certaine forme de spiritualité, et dans la spiritualité, j'entends vraiment, pour moi la spiritualité, c'est arriver à être connecté à la joie dans notre cœur.
Oui.
Point barre. Donc qui sont vraiment trop ancrés dans la matière et trop dans leur individualité et qui élèvent pas le débat en fait.
D'accord. Faut être connecté à la joie, matérialiser l'amour.
Oui, et puis savoir qu'on fait partie d'un tout et d'un univers qui est bien plus grand que nous et qu'on n'est pas seul, jamais. Jamais.
Et ça, c'est réconfortant.
Oui.
Alors, tu nous disais donc comment tu donnes des messages aux personnes qui viennent te consulter, puisque tu as la possibilité de lire des karmas passés, mais tu as aussi un message très important qui est le suivant. Il faut d'abord travailler sur sa vie présente, sur sa vie actuelle. Ça sert à rien d'aller chercher dans son karma pour défaire des nœuds, etc. Le plus important, c'est d'abord de travailler sur soi dans la vie physique, matérielle, concrète que l'on a aujourd'hui.
Tout à fait.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Je veux dire par là que il y a eu un mouvement un peu New Age passé un moment où justement la pensée positive, où je me mets face à la lune, je fais trois fois le tour du pâté de maison, enfin tu vois, toute chose comme ça, qui déresponsabilise en fait. Moi je crois fort en la responsabilité et il faut commencer, pour moi, même si j'aime pas trop employer le terme il faut, c'est quand même important parce que notre vie d'aujourd'hui, c'est quand même celle à laquelle on est le plus connecté et le plus à même de savoir si on va pouvoir vivre du bonheur ou pas, et qu'il faut commencer par nettoyer cette vie-là avant de penser à aller nettoyer les autres vies. En fait, en général, on va nettoyer un karma quand la personne a déjà travaillé sur elle, a déjà démonté justement tout ce qui était de l'ordre de... Enfin, ou a commencé à démonter tout ce qui est de l'ordre de l'ego, de la personnalité, de comportement, de croyance, voilà. Il y a un travail qui a déjà été fait. Parce que sinon, ça reviendrait à dire que, ben super, c'est miraculeux, en fait, j'ai rien à faire, je vais aller voir quelqu'un, il va ouvrir mon karma, il va tout nettoyer, nickel. Non.
Et tu précises que tu n'es pas une faiseuse de miracles.
Absolument pas.
Et tu prends la précaution, quand il y a des personnes qui viennent te voir, de t'assurer qu'elles ont déjà entamé un travail thérapeutique normal, si on reprend ton expression, parce que tu n'as pas envie justement qu'elles se disent, ben il y a une nana un peu branchée qui va me nettoyer tout ce que j'ai vécu avant dans mes vies antérieures, et du coup j'ai rien à faire là dans cette vie là.
Oui, alors ça c'est négatif. Je refuse totalement, et on n'ouvre pas un karma pour rien non plus, parce que c'est quand même pas anodin malgré tout. Et voilà, et que c'était une hérésie de croire que en allant travailler dans quelque chose de plus éthéré ou énergétique, évidemment que ça a des répercussions sur la matière, puisque la matière est énergie, mais il faut que la personne elle-même fasse aussi des choses, travaille sur elle. Si le travail s'arrête à un travail énergétique, on peut pas avoir des résultats différents en gardant le même comportement.
Oui.
Évidemment. C'est à la fois c'est paradoxal, mais en même temps c'est très facile à comprendre en fait.
D'accord. Donc les personnes que tu reçois, tu les vois maximum 3 fois.
Oui.
Tu ne veux pas les suivre plus.
Non. Non, parce que j'ai, dans le coup, en choisissant cette option-là, je suis plus dans la thérapie concrète, et que parfois, pour démonter certaines croyances ou certaines choses propres à soi, il y a besoin d'aller voir un thérapeute régulièrement pendant un petit temps, et que ça, c'est pas mon boulot, je peux pas être et l'un et l'autre.
D'accord.
En fait.
Donc ton boulot, c'est d'ouvrir une porte sur des sphères auxquelles on n'est pas connecté, de donner une lecture un peu symbolique, peut-être symbolique, qui va permettre à la personne de franchir un cap, de comprendre des choses de façon peut-être inconsciente par rapport à une vie antérieure. Et puis voilà, ça, après le boulot repose sur
la personne elle-même, bien sûr. Alors après, évidemment, grâce à mon parcours de thérapeute normal, j'en profite quand même pour donner des clés concrètes et en fait en changeant l'angle de vision du problème, en final, on arrive aussi à trouver des clés autres que avec un thérapeute normal peut-être ils auraient pas trouvé ou auraient pas eu idée, enfin voilà.
Oui, c'est un angle de vue différent.
Tout à fait. Donc je donne des clés différentes mais concrètes et après c'est à eux de faire le boulot, de continuer le boulot en fait, si tu veux. C'est comme si moi mon boulot c'est au niveau du karma et de l'énergie associée à ce karma et qui pèse donc dans la vibration de la personne. C'est d'arriver à neutraliser ça et à nettoyer au niveau de l'énergie. Mais après dans la vie concrète, donc la personne évidemment n'est plus embarrassée par ces énergies-là, mais c'est bien à elle de changer son comportement, ses croyances et sa façon de voir les choses pour que ça perdure. Parce qu'après, c'est pareil, si vous êtes habitué à fonctionner avec des croyances ou un comportement dû à une mémoire karmique ou une lignée familiale ou une enfance, voilà, enfin, ça peut être tout un tas de choses, notre mental va nous amener à reproduire et à rester dans le schéma quand même.
Ouais.
Donc, si j'ai nettoyé l'énergie, mais que le schéma mental ne change pas, j'ai envie de dire, il va y avoir un super mieux pendant 3-4 mois, parce qu'effectivement, la personne va se sentir légère et va se dire nanana. Mais si ensuite, elle-même, elle n'a pas fait de boulot, bah bim, ça revient. Parce que c'est elle-même qui se remet cette énergie, si tu veux.
Très bien, on a bien compris. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Il nous reste encore une musique à écouter. Toujours Thomas Sidibé. Et cette fois-ci, c'est Princesse de l'eau.
Je l'ai vue marcher sur la dune, la petite fille aux yeux de miel. La lumière pâle de la lune semblait lui dessiner des ailes. Elle s'avança en chantonnant d'un pas léger vers l'océan. Le vent chipa sa mélodie, la souffla dans tous les pays. Même pas peur de la mort, pas même peur de l'ennui. Malgré les coups du sort, j'aime la nuit. Même pas peur de la mort, pas même peur de l'ennui. Malgré les coups du sort, j'aime ma vie.
La vie elle tient son caprice, son yeux t'es coulé à l'arc-en-ciel. Soleil t'es fil fondant, tu brilles, je suis son joli pauvre angel. On me la 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 d'un roman, son côté polyane en cadence. La brise la souque son parolis, la femme ça pas tout, tout pays.
Appelle la mort, j'aligne à ton ali, que mon malheureux sort, mi chante, mi crie. Prends la pape et la mort, j'aligne à ton ali, que mon malheureux sort, mi aime mon vie.
Sidibé, princesse de l'eau, qui chante même pas peur de la mort. Alors, ce message, il est important.
Oui, oui, parce que la mort est un changement d'état vibratoire, mais en aucun cas une fin définitive. Pour moi, toujours pareil, et pour lui aussi, a priori.
La mort est un passage entre deux expériences.
Oui.
Où on va matérialiser l'amour sur cette terre.
Oui.
Donc, la vie... la vie la plus importante, c'est celle que l'on a là dans les mains, celle que l'on vit en ce moment, pour se façonner, se nettoyer, comprendre qui on est, se sentir exister, ressentir la vibration d'amour et faire en sorte de matérialiser cette vibration par des gestes d'amour.
Tout à fait.
Ok. Bon, alors je crois que la petite fille que tu étais avait raison finalement avec son message.
Exact. Elle avait totalement raison et ça c'est cool.
Donc elle avait bien compris ce qui était au fond d'elle. Le plus important c'est l'amour et puis il faut vivre sa vie pleinement.
Oui.
Et il t'a fallu des années et des années pour revenir à ce message et le comprendre vraiment.
Oui, parce que je pense que voilà, c'est ça que ça, j'ai fini par comprendre. C'est que l'amour, la vibration de l'amour dans notre cœur, ça se transcrit par de la joie.
Oui.
En fait, souvent je dis ça aux gens qui viennent me voir quand ils partent. Pour être sûr de pas vous tromper de chemin, ressentez de la joie, mais la joie pure, la vraie joie dans votre cœur. Et là, vous êtes sûr que c'est le bon chemin. C'est pas l'amour romantique, sentimental. Bon, ça en fait partie, évidemment. Mais c'est la joie, en fait. Et là, on est dans la vibration de l'amour.
D'accord. Où est-ce qu'on peut te trouver, Natacha? J'imagine qu'il y a plein de personnes qui écoutent et qui se disent « Ah, j'aimerais bien la rencontrer, avoir une consultation. »
Eh bien, à Montauban, mais je travaille aussi, j'ai aussi des gens d'un peu partout. En fait, je travaille par Skype également.
Mm-hmm.
Donc, ou sinon, j'ai un cabinet à Montauban.
D'accord. Tu peux donner ton numéro de téléphone?
Bien sûr, sans problème. Ah oui, c'est pas secret. Alors, c'est le 06 52 40 46 10.
Ouais, et t'as aussi une adresse mail?
Oui, donc natachakarma, tout attaché, @gmail.com. Alors pour ce qui est du téléphone, évidemment quand je travaille, je coupe mon téléphone, donc les gens qui veulent me joindre en fait laissent des messages. Et moi je rappelle, alors parfois je peux pas rappeler dans la journée tout de suite, mais je rappelle. Voilà.
D'accord.
Dans un délai maximum de 3 jours, je rappelle pour pouvoir déjà prendre un premier contact, voir si effectivement c'est opportun ou pas, parce que ça l'est pas toujours, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Et voilà.
D'accord, super. Et on reprendra tes coordonnées sur le podcast de l'émission.
Merci.
Merci beaucoup, Natacha, pour ton témoignage, ton message positif.
Merci à toi, Dorothée. C'est un très bon moment. Et c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de parler de ces sujets-là de manière comme ça.
Au grand public.
Exact.
Voilà, c'est
chose faite.
Chers auditeurs, vous l'avez entendu, votre vie présente est la plus importante. Et notre boulot, c'est de matérialiser l'énergie d'amour en ressentant de la joie. Alors, on s'y met tous au travail. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission dimanche à 20h et que vous la trouverez en podcast sur cfmradio.fr. Et puis, si vous avez envie de donner vos messages positifs, vous pouvez me contacter, bien sûr, par mail dag@s'accomplir.com. Je vous souhaite une belle semaine, vivez pleinement et à mardi prochain.
CFM, c'est ça qui est bon.
CFM,
l'esprit rock.